J'aimerais ce matin vous parler de l'exemple d'une personne qui, pendant un certain temps, m'a accompagné, marqué, et accompagné parce que elle m'a réorienté dans l'engagement que je devais être au Seigneur et à son œuvre. Accompagné dans des moments qui n'étaient pas tout à fait simples et où il fallait se remettre debout, se reconcentrer sur l'essentiel. Et il m'a marqué par sa capacité à mobiliser des personnes qui, a priori en tout cas, n'étaient plus mobilisables. Et cette personne, c'est un personnage de l'Ancien Testament, qui a vécu, allez, 4e siècle à peu près, avant Jésus-Christ bien sûr, né dans un pays étranger, Néhémie, oui. Certains l'avaient déjà, hein, je suis sûr, avec le masque, je n'ai pas entendu. Néhémie. Et le thème de ma prédication, de notre moment là, de méditation, s'intitule « Construire ensemble ». Alors, je ne vais pas vous donner de... Je ne vais pas faire une lecture tout de suite du texte de Néhémie, mais si déjà vous voulez vous préparer, vous ouvrez donc dans le livre de Néhémie, c'est à peu près les trois premiers chapitres, et un chapitre sur lequel nous nous arrêterons plus particulièrement, où c'est une liste de noms, donc je ne vais pas la lire parce que je vais escamoter tous les noms, et puis ça va être pour vous rébarbatif, et au bout de 2 minutes, vous serez plongé dans un sommeil profond, donc c'est quand même pas le but de la prédication, j'imagine. Construire ensemble, c'est donc mon thème. Construire ensemble, c'est un défi pour toute Église, un défi que connaît toute Église. Frères et sœurs, appelés par Dieu, d'origine différente. Alors, je ne connais pas toutes les origines ici, je sais qu'il y a des Espagnols, il me semble. Il y a des Français de pure souche, il y a un Nord-Africain, pas loin. D'arrière-plan sociaux différents, d'arrière-plan peut-être aussi religieux différents, de cultures différentes, d'âges différents. Et avec toute cette diversité, ce melting pot, comme on dit en bon français, nous avons la tâche de bâtir ensemble l'Église. Ça, c'est un projet fou. Un projet fou. Venu d'ailleurs, il faut bien le dire, nous vivons dans une société où on se divise, on segmente, on compartimente. Et le projet de Dieu, projet venu d'ailleurs, est un projet qui a pour but de réunir, de faire vivre ensemble des personnes qui ne se seraient jamais mises ensemble ailleurs. Comment s'y prendre pour parvenir à coordonner, à bien nous coordonner? Comment parvenir à articuler ces éléments différents? Quel piège éviter? Et je vous invite, voilà, ce matin, à glaner ici ou là, dans ces trois chapitres du livre de Néhémie, quelques éléments de réponse. Je dis bien quelques éléments de réponse. Je trouve que je suis un peu long, parfois, souvent, pour pas dire toujours. Alors j'ai essayé de ne pas en rajouter à ma réputation. Quelques éléments de réponse à ces questions au fil des trois premiers chapitres du livre de Jérémie. Et tout d'abord, ce sont ce que j'appelle les incontournables. Incontournables. Alors, j'ai essayé de ne pas me tromper avec la zapette, parce que moi et la technique, ça fait deux. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Mais oui, les incontournables, mes amis. Quels sont les incontournables pour construire ensemble? Première chose, se soucier de l'œuvre de Dieu. Si vous ne vous souciez pas de l'œuvre de Dieu, ah, vous pouvez refermer votre Bible et dormir dans un... Ou alors restez éveillé parce que vous allez découvrir quelque chose. Redites peut-être, mais tellement essentiel. Se soucier de l'œuvre de Dieu. Néhémie, 4e siècle, en déportation, loin de son pays, loin de Jérusalem. Néhémie, chapitre 1. Néhémie apprend par des gens restés au pays. Que la cité de Dieu, et particulièrement les murailles, sont dans un état lamentable. Lamentable. Lorsque j'entendis ces paroles, ces nouvelles qui décrivaient la situation de la ville, et plus particulièrement les murailles, je m'assis, dit-il, et je me mis à pleurer. Se soucier de l'œuvre de Dieu. Pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu du ciel. Vous connaissez certainement le dicton loin des yeux, loin du cœur. C'est pas le cas de Néhémie. Il est loin. Loin de Jérusalem, mais il a le cœur au milieu de la ville. L'œuvre de Dieu chevillée au corps, chevillée au cœur, arrimée à son âme. L'œuvre de Dieu, même s'il est loin, ne le laisse pas indifférent. Il vibre à ce qui arrive. À cette cité, cité de Dieu. Il nous arrive d'être tous, hein, à un moment donné ou à un moment triste, même profondément triste. Et les causes de notre tristesse sont variées et plus ou moins profondes. Une mauvaise note à l'école, on a raté un examen qui nous ferme les portes d'une école dans laquelle nous espérions pouvoir entrer. Une dispute avec nos parents. Ça vous arrive jamais, hein? Avec notre conjoint. Ça ne nous arrive jamais, hein? Le pire, c'est quand c'est le dimanche matin. Hein? Les disputes avec Muriel dimanche matin, parce que moi j'étais dans mon bureau en train de finir de préparer mon sermon et j'ai payé la préparation des quatre enfants. Puis après, ben, vous devez aller devant, sans vous être réconcilié. Ça c'est dur, hein. Tristesse. Nous avons connu un divorce, perdu un proche. Toutes ces tristesses sont légitimes, elles nous accablent. Elle nous enferme parfois dans la peur absolue. Il nous arrive même que nous ayons perdu le goût à la vie à cause de ces événements dramatiques. Est-ce que parmi toutes ces listes que je viens de faire, parmi toutes les listes des sujets de tristesse, est-ce que les mauvaises nouvelles concernant l'œuvre de Dieu nous attristent? Au point de ne plus pouvoir manger, c'est le cas de Némi. Je jeûnais, perdu l'appétit. Ah, il l'a fait volontairement, bien sûr. Passer du temps dans la prière, dans les pleurs, dans les larmes, parce que l'œuvre de Dieu est dans un pitoyable état. Terrible. J'espère. En ce moment, pour partager avec vous quelque chose de personnel, je pleure pour l'Église d'Algérie. Seize églises fermées. Mon frère Salah, président de l'Église protestante d'Algérie, est passé au tribunal il y a 2 mois, 18 mois de prison. Une somme phénoménale d'amende. Et les prisons d'Algérie, ce n'est pas les prisons en France. Je pleure pour l'œuvre en Algérie. Néhémie a peut-être connu bien des sujets de tristesse, mais la raison de cette tristesse dans ce passage, ce qui l'accable au point de frôler la dépression, c'est l'état dans lequel se trouve cette ville de Jérusalem. La ville que Dieu s'est choisie pour y établir son temple. La tristesse de Néhémie reflète son souci de l'œuvre de Dieu. Il a un tel attachement à Dieu qu'il ne peut supporter que Jérusalem, cette ville si chère aux yeux du Seigneur, soit dans un tel état d'humiliation. Car derrière l'humiliation de Jérusalem, c'est l'humiliation de Dieu. L'humiliation de Dieu. C'est Dieu qui est humilié. Cette tristesse de Néhémie nous interpelle. Elle nous questionne. Quelle relation entretenons-nous avec l'œuvre de Dieu et plus précisément avec l'Église? Elle est l'œuvre du Seigneur, le temple de l'Esprit-Saint, dit Paul. Ou la Jérusalem céleste, pour employer les images de Jean dans son Apocalypse. Nous sentons-nous concernés par sa vie? Nous sentons-nous concernés par son présent, son avenir? Vibrons-nous à ses joies, vibrons-nous à ses tristesses, à ses peines. Si nous partageons avec Néhémie son souci pour l'œuvre de Dieu, il y a malheureusement trop souvent de quoi pleurer. Combien de missions ont été dévastés par des divisions, des guerres de chapelle, une œuvre de Dieu maltraitée, une œuvre de Dieu méprisée, parfois ruinée, dévastée par la folie des chrétiens, par leur indifférence, par l'orgueil des chrétiens, la jalousie ou la haine des croyants. Combien de fois les dérives des églises n'ont-elles pas semé le trouble dans le témoignage? Auprès des non-croyants, et en premier lieu, les enfants. Ces enfants que nous amenons à l'église, quelquefois à partir d'un certain âge contre leur gré, et qui voient la division. Ces enfants qui sont les spectateurs assis au premier rang. Pas leur raconter des histoires à eux. Petite anecdote pour nous détendre et nous faire sourire. Vous savez que j'aime sourire. Je me souviens d'un moment où nous invitions des personnes à table. Et puis, je leur dis, on va prier. Et un de mes enfants leur dit, ah bon, on prie aujourd'hui? L'amour de Néhémie pour Dieu est tel, je répète, qu'il pleure à l'état déplorable dans lequel se trouve la ville de son Dieu. Construire donc ensemble, cela commence par être profondément attaché. attaché à l'œuvre de Dieu et à Dieu. Nous ne pourrons pas construire ensemble si nos cœurs restent trop attachés à d'autres objectifs que celui de servir les desseins du Seigneur, insensible à ses appels pour son Église. Deuxième point, deuxième incontournable. Apprendre à nous placer devant Dieu. Je priais devant le Dieu des cieux. Pleurer, je crois que c'est bon parfois, c'est important. Et dans une tristesse profonde, c'est important aussi. Mais si nous restons dans une tristesse, dans une désolation permanente, ça ne va pas faire avancer les choses. Néhémie ne reste pas aux lamentations. Dans sa détresse, Néhémie prie, chapitre 1, versets 5 à 11, et sa prière mérite qu'on s'y arrête un instant. Je priais devant le Dieu des cieux. Voilà la prière de Néhémie. Ah, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et que pour confesser les péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse et à ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens, mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions. J'aimerais juste revenir en arrière. J'ai un titre. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle des autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Cet homme, c'est l'empereur. Apprendre à nous placer devant Dieu. Une prière humble et solidaire. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a marqué, si vous avez été attentif à la prière de Néhémie? J'allais dire, c'est un pronom personnel. Il fallait être attentif, bien lire. Un pronom personnel qu'il emploie dans cette prière. C'est le « nous ». Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Une prière humble et solidaire. Lorsque nous sommes moralement abattus par la situation parfois désastreuse de l'œuvre de Dieu, notre réflexe pourrait être de mettre une distance froide entre nous et ceux que nous tenons pour responsables de ce désastre. Certains vont même plus loin. Ils ne veulent plus remettre les pieds dans une église. On ne s'engage plus, on se tient loin, parfois très loin de l'Église. C'est le choix que font certains. On peut comprendre ce traumatisme, mais est-ce ainsi que l'on peut réellement guérir? Néhémie nous indique un autre chemin au verset 6 et 7. Dans sa prière, alors que lui-même est en exil, il faut bien se souvenir, il est en exil, il est né en exil. Il n'a donc aucune responsabilité, Néhémie, sur la situation de son peuple, aucune. Et pourtant, il emploie le « nous » pour désigner les responsables qui ont conduit ce désastre à la déportation, qui ont conduit au désastre de la déportation, pardon. Ils ne faisaient pas partie de la génération de ceux qui n'ont pas écouté l'Éternel. Et pourtant, ils ne se dédouanent pas pour autant devant Dieu, en se considérant comme justes, comme supérieurs parmi la génération précédente, que celui qui n'a jamais péché, dit Jésus, lui jette la première pierre. Jean 8, 7. Nous ne pouvons construire ensemble que si nous sommes prêts à reconnaître que nous sommes tous faits de la même pâte, solidaires dans notre malheureuse incapacité à toujours restreindre les élans du vieil homme qui remonte à la surface. Il est là, ce vieil homme, n'est-ce pas ? C'est Luther qui disait « J'ai noyé le vieil homme, mais le bougre savait nager. » Une prière solidaire. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé tes commandements. Alors, une prière fondée sur les promesses de Dieu. L'initiative de Néhémie ne repose pas sur une lubie, sur une ambition personnelle, mais sur le projet de Dieu pour son peuple. Et c'est ce qu'il rappelle également dans sa prière, versets 8 à 9. Le retour du peuple dans son pays était une promesse de Dieu. Voir Deutéronome, chapitre 30, versets 1 à 6. La reconstruction du temple et de Jérusalem faisait partie de ce que les prophètes avaient annoncé de la part de Dieu. Et c'est sur ces promesses que Néhémie fonde son action. Si ce que poursuivent nos efforts n'est pas le projet d'un homme, notre travail en commun n'est que le projet d'un homme, notre travail en commun ne durera pas longtemps. Probablement pas plus longtemps que celui qui a initié le projet. Sur quel fondement repose notre projet? Sur nos idées personnelles, nos ambitions, une vision que nous avons à cœur? Le projet de Néhémie repose sur la parole de Dieu. Le Dieu des promesses qui est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et c'est autour de ces promesses que Néhémie pourra rassembler ce peuple. Autour des promesses de Dieu. Pas autour d'un homme, pas autour d'un clan. Autour des promesses de Dieu. Souviens-toi de cette parole, pardon, il y a une superposition, nous l'avons lue. Une prière confiante. On ne dira jamais assez l'importance de la prière dans l'entreprise de bâtir ensemble avec le Seigneur. Pour Néhémie, aussi légitime que soit son projet, même s'il repose sur les promesses de Dieu, il ne peut se faire sans Dieu. Va y prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle des autres serviteurs qui aiment te vénérer. Néhémie sait qu'il n'est pas le seul à prier pour l'œuvre de Dieu. Il a conscience de faire partie d'une chaîne de croyants qui prient ou ont prié pour la reconstruction de Jérusalem. Il se confie en celui qui les entendra. Et Dieu entend. 4 mois plus tard, l'empereur perse voit sur le visage de Néhémie la tristesse que lui inspire la situation de Jérusalem. La réaction de l'empereur est alors imprévisible. Il est incroyant, il ne croit pas au Dieu de Néhémie. Les serviteurs royaux ne devaient rien laisser paraître de leur vie privée dans l'exercice de leurs fonctions. Ils risquaient leur vie. Néhémie risquait sa vie. Mais l'attachement à l'œuvre de Dieu et sa certitude de s'appuyer sur la parole de Dieu lui donne, au moment important, opportun, une audace qui va au-delà de ce qu'il avait sans doute prévu. Non seulement il va demander à l'empereur de le laisser partir et de lui donner des laissez-passer pour ne pas être ennuyé par la police de l'empereur, mais en plus, il lui demande de lui fournir les matériaux. Puis quoi encore ? Hein ? La foi de Néhémie est à la hauteur de son Dieu. Pas à la hauteur de ses moyens, pas à la hauteur de ses possibles, mais à la hauteur de son Dieu. Et il va partir avec les matériaux nécessaires pour reconstruire la cité. Et grâce à l'action de Dieu, il obtient tout ce qu'il avait demandé. Grâce à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Croyons ça, mes amis. Peut-être bien que oui. Nous croyons cela. Ah, si j'étais à Tizi Ouzouna, j'en aurais entendu. Amen. Mais bon. Allez, on continue, ça va? Vous accrochez au vaillon? C'est bon? Bon. Apprendre à encourager. Si j'avais un livre à écrire ou à rajouter à la bibliothèque, c'est bien celui-ci, l'encouragement. Il y a quelques ouvrages, mais c'est un thème qui me tient à cœur. Apprendre à encourager. La suite du récit nous montre que construire ensemble nécessite de pouvoir ouvrir les yeux sur l'action de Dieu pour en tirer encouragement. Néhémie arrive à Jérusalem. Néhémie, à la vue de la situation de la muraille de Jérusalem, aurait eu bien des raisons d'en vouloir à ceux qui avaient laissé les murailles dans un tel état d'abandon. Il aurait pu leur reprocher leur manque de foi, leur peu d'attachement à l'œuvre de Dieu, leur préférence à leur confort personnel. Il aurait pu leur reprocher leur paresse. Eh bien non. Eh bien non. Que fait-il ? Il encourage. Allez, construisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans une situation d'humiliation. Puis, il raconte ce que Dieu a fait pour lui, comment il a agi, ce que l'empereur lui a dit. Pas si j'ai le texte là. C'est pas cela. Quels sont nos réflexes quand quelque chose ne va pas bien? Les reproches. Christian, je suis arrivé, la salle n'était pas tout à fait propre. Hein. Oui, mais le numéro du chant que tu m'as donné là, c'était pas le bon, hein. Oui, puis la note là, hein, que t'as faite, hein, elle était pas juste, hein. Pardon ? J'ai pas démarré à temps. J'ai pas démarré à temps. Alors ? Vieil homme. Il faut que tu boives la tasse encore. Néhémie, il encourage. Il ne casse pas. Il va raconter ce que Dieu a fait pour lui. Moi aussi, j'étais pécheur. Moi aussi, j'avais du mal avec ça. Mais le Seigneur m'en a sorti. Ou bien le Seigneur même aussi. Ah, il reste encore des grains de poussière. Mais il y a tellement de poussière qui a été enlevée. Merci, Christian. Ouais. Le numéro n'était pas juste. Mais merci, Valentin. Alors, je ne dis pas qu'il n'était pas juste, hein, ça j'invente. Hein. Merci, Valentin, pour le temps que tu as pris, que tu as consacré pour cette présidence. Merci à toi. Merci à toi pour les instruments qui ont permis que nous chantions en rythme. Pas trop faux. Merci Christian pour la guitare. Merci Elisabeth pour la projection. Oh, je pourrais comme ça faire la liste. Mais si nous sommes que dans les reproches, mes frères et sœurs, ne nous étonnons pas que nous n'ayons pas envie de servir. Pratiquez l'encouragement. Et vous allez voir que ceux qui sont à côté de vous et qui pour l'instant n'osent pas se lancer, vont se lancer. Je suis arrivé dans une église où il y avait deux ou trois responsables qui se plaignaient en fait qu'il n'y avait pas personne, ne s'engageait. Au bout de quelques mois, j'ai compris. Ils étaient tellement exigeants, avaient placé la barre tellement haute, étaient tellement procéduriers, mais que ça filait des chocottes de s'engager. Si c'est pour être la cible des critiques, j'en ai assez au boulot. Et petit à petit, on a expliqué l'importance de l'encouragement, de la bienveillance, de l'accueil, pour tout ce qui est fait. Et j'ai vu les uns et les autres commencer à s'inscrire sur les listes d'activités. Et j'ai vu une église se transformer en fourmilière. Et ces responsables d'activités qui se croyaient seuls ont vu des frères et des sœurs se joindre à eux. Se joindre à eux. L'encouragement. J'avais dit à quelqu'un, toi tu sais, quelqu'un qui était important dans l'église, hein, savait ses pièces maîtresses qui aiment bien tout maîtriser. J'ai ton problème, tu es consacré, mais tu n'as aucune parole d'encouragement. Tu es toujours sur le mode négatif. Alors il me répond ce qui m'a sidéré. Il dit oui, mais c'était un perfectionniste, hein. Je dis, oui, mais j'ai l'impression d'être hypocrite quand je dis merci et que je suis reconnaissant. Mais je te demande pas de dire que tout a été parfait, mais juste de remercier pour ce qui est. Vous connaissez le chant qu'on apprend aux enfants? Voici le mot qu'on oublie. Hein? Enfin, c'est juste élevé, nos enfants ont été élevés avec ça. Le mot qu'on oublie, c'est quoi? Merci. 5 lettres. Quand même pas difficile à prononcer. 5 lettres. 5 lettres qui changent tout dans le service communautaire. Et le partage de Néhémie, plutôt que juste de critiquer, il raconte ce que Dieu a fait. Comment Dieu l'a encouragé. Construisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans une situation d'humiliation. Et le résultat, Néhémie 2,18. Ils reprirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Oui, une belle œuvre. Tout à coup, la description de Néhémie change la vision de l'œuvre de Dieu. Ce qu'ils ont devant eux, c'est un champ de ruines. Et tout à coup, la manière dont Néhémie présente les choses transforme ce champ de ruines en une projection fabuleuse. Les incontournables, se lever et travailler ensemble. Alors je vais un peu plus vite, hein, parce qu'on a une longue journée devant nous. Mais accepter la place qui est la nôtre. Alors, Je vais pas vous lire le chapitre 3, mais je vous suggère de le lire. Je vous en lirai peut-être un petit bout, mais acceptez la place qui est la nôtre. Il y avait des hommes et des femmes, alors j'ai perdu le... qui étaient, chapitre 3, hein, prenez le chapitre 3, juste retrouver le passage, juste quelques secondes. Je vous lis juste deux, trois versets, je ne vais pas être très long, mais c'est juste pour vous donner la tonalité. Chapitre 3, ils se mirent donc à travailler ensemble, répartition des murailles de Jérusalem. Élakim, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en fixèrent les battants. Là, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la charpentèrent et en fixèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillaient aux répartitions Meremoth, fils de Uri, le fils d'Akot. À côté d'eux travaillaient Meshulam, fils de Berekia, fils de Mézéjabel. À côté d'eux travaillait Tsadok, fils de Béna. Comprenez pourquoi je n'ai pas fait toute la lecture. Hein bon. Certains travaillaient à la porte des brebis, Némi 3, hein. D'autres travaillaient à la porte du four, Némi 3, 11. Et d'autres travaillaient à la porte du fumier. La porte des brebis, c'est là où les brebis passaient pour aller ensuite servir les sacrificateurs pour les sacrifices. Porte honorable. C'est sympa, hein, de travailler pour le culte de Dieu. Puis il y avait la porte du four. C'est là où on faisait le pain. L'odeur des croissants, des viennoiseries. Et puis, dernier point, la porte du fumier. Où est-ce que vous voulez travailler? À la porte des brebis? À la porte du four avec les croissants, là? Ou à la porte du fumier? C'est là où les ordures passaient. Et pourtant, les trois endroits sont indispensables, nécessaires. Les brebis pour le culte, le pain pour la vie, et la porte du fumier pour l'hygiène. Quand j'étais à Tenon, j'ai joué le morquestre, je faisais un peu tout, j'étais tout seul, voilà. Enfin pratiquement. Et donc je prêchais, je nettoyais la cuisine et je débouchais les toilettes. Imaginez, quelqu'un disait en fait, si vous voulez savoir si l'église est accueillante, allez visiter les toilettes. C'est pas faux, on dirait l'autre. C'est pas faux. Accepter la place qui est la nôtre. Effectivement, et certains voudraient travailler pour le culte, mais peut-être qu'ils sont plus doués pour les canalisations, indispensables pour la vie d'une église. Certains voudraient travailler pour la porte du four, faire les croissants, mais ils sont peut-être appelés à autre chose. L'essentiel, c'est d'être à la place que Dieu nous assigne. Se lever, être disponible pour des missions improbables. Des orfèvres, chapitre 3, verset 8, devenus maçons. C'est incroyable, hein ? Je voudrais que ça arrête. C'est important de lire ces listes un peu rébarbatives, parce qu'on apprend plein de choses. Des orfèvres devenus maçons, hein ? Entre les bijoux et le béton. Des parfumeurs devenus bâtisseurs. Oui, les incontournables, construire ensemble, un des incontournables, être disponible pour des missions improbables. Accepter la diversité Il y a un mot qui revient dans cette liste, un refrain. Je ne sais pas si dans les quelques versets que je vous ai lus, vous l'avez repéré. Non. À côté. Le refrain qui rythme. Ils travaillaient côte à côte. Mais dans l'église, nous ne travaillons pas côte à côte, nous travaillons
ensemble.
Face à face. Face à face. Face à face. On ne peut pas construire ensemble si nous sommes face à face. Apprenons à être ensemble, côte à côte, pour nous aider les uns les autres. Eliashib travaillait à côté de ceux de Jéricho, et ceux de Jéricho travaillaient à côté de Zaccour. Puis il y avait ceux de Séna qui travaillaient à côté de Mérémoth, etc. Ces côte à côte rythment la description de la construction. Et le chapitre 3 nous montre, car malgré les différences familiales, sociales, et même de sexe, parce qu'il y avait des femmes, chapitre 3, verset 12. Les Israélites sont les uns à côté des autres pour construire ensemble l'œuvre que Dieu leur a confiée. Pour construire ensemble dans l'œuvre de Dieu, il nous faut nous accepter, accepter nos différences, mais apprendre à aimer et valoriser les différences de l'autre qui bâtit aussi à sa manière. Pour construire ensemble, il faut accepter d'être l'un à côté de l'autre. Et c'est-à-dire que tout était parfait. Et que l'on travaillait dans une parfaite harmonie. Non, parce que dans ce beau chantier, il y avait des grincheux. Ah pardon. Alors je n'ai pas noté celui-là. Il y avait des grincheux. Si vous lisez au chapitre 3, verset 5... Il y avait aussi des grincheux, par exemple, et le notable de Tekoa qui refusait de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Vous voyez l'authenticité de ce passage, hein, on ne montre pas un chantier qui se déroule parfaitement. Mais, c'est intéressant, l'auteur n'en fait pas une montagne. C'est dit en passant qu'il est facile de relever un défaut et parfois de le monter en mayonnaise. Comme si plus on en parlait, mieux on allait régler le problème. Ici, ce bémol ne cache pas la belle harmonie qui règne tout au long de la muraille. Et j'arrive au bout pour construire ensemble, et c'est le dernier incontournable, ne pas perdre l'objectif. L'objectif. La construction de cette muraille a environ duré 2 mois. Dieu aurait pu se passer des Israélites pour cette rénovation. Mais ce travail difficile a œuvré à l'unité du peuple. Chacun a apporté sa pierre, petite ou grande. Chacune, quelle que soit sa taille, a contribué à la beauté, à la solidité de l'édifice. Et le sérieux du travail de mon voisin, ou plutôt du sérieux du travail de mon voisin, dépend ma sécurité. Parce que si le travail est mal fait, l'ennemi a plus de facilité à faire une brèche dans la muraille. Et c'est vrai dans l'église. Ma sécurité dans l'église dépend de chacun d'entre vous. Ne pas laisser prise à l'ennemi pour qu'il y introduise son ferment de division. Son ferment de division. Cette aventure audacieuse a montré la fidélité contre toutes les embûches. Nous ne nous sommes pas arrêtés, mais les ennemis d'Israël apparaissent plusieurs fois dans ce passage. Malgré cela, le peuple a pu constater combien le Seigneur est grand, puissant et fidèle. Et quelle destinée pour ce travail, contribuant à la réalisation du dessein de Dieu. Les bâtisseurs imaginaient-ils qu'un jour, le Seigneur en personne passerait sous les portes qu'il relevait. Les murailles étaient encore debout lorsque Jésus, la pierre vivante, est venu la visiter juste avant Pâques. Et je vous invite, puisque vous à terminer par cette réflexion, à ne pas perdre l'objectif, puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. En construisant l'Église avec le maître d'œuvre qui est Jésus-Christ, nous nous construisons nous-mêmes, nous nous édifions nous-mêmes. Nous sommes à la fois les pierres et à la fois les bâtisseurs. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.